Énergie. What's up, DJ?
Bonjour à tous, c'est Morgan Nagoya et bienvenue dans What's Up DJ, le podcast énergie qui donne la parole à tous les DJ. Aujourd'hui, c'est une légende de la French Touch qu'on reçoit, un DJ, un producteur, un organisateur de festival. Le gars sait tout faire en même temps. Et aujourd'hui, il vient nous parler de ses 40 ans de carrière qu'il a compilé dans un livre collector, I Love My DJ Life, un bouquin que clairement tout fan de musique électronique se doit d'avoir à la maison. Donc les amis Space Invaders, on monte dans la soucoupe et on part direction Los Angeles, LA baby.
Los Angeles, LA baby.
Ah, LA baby, qu'est-ce que tu nous fais? Alors là, t'es en vacances, tu fais du son, qu'est-ce qui se passe?
J'habite ici depuis 13 ans.
Ah d'accord, ok, très bien. Ok, bah, j'ai un petit peu de retard alors.
C'est mon studio principal, mais voilà.
Ok, la soucoupe volante s'est posée à Los Angeles il y a 13 ans.
Voilà, c'est ça, exactement.
Les Space Invaders sont au courant et je ne le suis pas. Joachim Garraud, en tout cas, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses, mais surtout d'un livre qui est sorti, qui s'appelle I Love My DJ Life.
Et il faut que j'aille le chercher, peut-être qu'il est à côté.
Mais je t'en prie, vas-y, fais comme à la maison. Allez, vas-y.
Hop.
Voilà. Ah, puis alors, celui-là, il faut une grue hein, pour le prendre.
Ah ben, 4 kilos, 528 pages, j'ai pas fait semblant.
Bah, c'est-à-dire que 40 ans, 4 kilos, ça fait 1 kilo pour 10 ans d'archives.
Exactement, voilà. Il fallait autant de pages pour faire tenir autant de souvenirs de tous les gens que j'ai rencontrés, de tous les projets que j'ai eu la chance de mener, et puis beaucoup d'anecdotes. Tu vas beaucoup rigoler quand tu vas le lire.
Alors moi j'ai eu la chance de le feuilleter un petit peu. J'ai eu la version comme je t'ai dit.
En exclu.
Ouais, la version digitale. Et j'étais dans le train et j'ai préparé un peu l'interview. J'étais comme un fou parce que moi je te connais parce que forcément tous les DJ et tous les fans d'électro connaissent Joachim Garraud. Mais c'est vrai que là du coup je suis remonté jusqu'au début, jusqu'au cours de batterie, jusqu'au conservatoire. Enfin, là, on apprend tout, vraiment. C'est une vie de fou que tu nous as menée. Vraiment, bravo.
Oui, ben, c'est pour ça que le titre s'appelle « I love my DJ life ». C'était plutôt riche, tu vois.
Ouais.
Et puis, c'était pour moi l'occasion de raconter l'évolution de notre métier, parce que toi aussi, tu es DJ, donc tu vois un peu comment ton métier a évolué via la radio, via les outils, via la reconnaissance du métier de DJ. Et je voulais absolument documenter ça. Et comme moi, je suis archiviste et que j'ai archivé 40 ans de photos,
impressionnant.
De vidéos, t'as 579 QR codes dans ce livre de 528 pages.
Ouais.
Et t'as des QR codes qui t'emmènent vers des vidéos exclusives qui montrent justement le premier enregistrement avec le premier album de David Guetta. Parce que j'avais capturé ça avec la vidéo, donc je trouvais ça cool de partager ça.
Ah, mais c'est énorme. J'étais comme un fou. Je suis pas allé voir les QR, mais tu abordes plein de sujets super intéressants parce qu'on parle de Guetta, on parle de ta rencontre avec Jean-Charles Carré, pardon. L'histoire de Just a Little More Love, il y a tellement de choses. Mais comment t'es venu un petit peu l'idée de faire ce bouquin? Enfin, tu t'es dit, bon, bah tiens, je vais faire un bouquin sur ma vie et on y va, quoi. Let's go.
Non, alors ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, au mois de janvier 2025, j'ai fait une grosse fête qui était pour fêter le 999e podcast, émission que je fais toutes les semaines depuis 20 ans.
De The Mix.
Ça s'appelle The Mix.
Voilà.
Et donc, pour fêter cette fête, j'ai invité plein de potes, des artistes, ça allait de Vitalik enfin, il y avait tout un line-up.
Ah,
il y avait
le répertoire de Joachim Garraud, je pense que ton téléphone portable, si demain tu veux faire un...
Donc du coup j'ai invité pas mal de artistes qui sont venus, et suite à cette fête, j'avais demandé aux gens, justement pour permettre à des stars, enfin des gens connus, de venir mixer pour un public assez réduit, c'est-à-dire de ne pas avoir de barrière de sécurité, tout ça. Je voulais que tout le monde soit mélangé, les gens très connus, les stars, et puis les amateurs de musique qui, eux, sont moins connus. Donc, pour ça, j'ai demandé à tout le monde de laisser leur téléphone portable au vestiaire. Et donc, du coup, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il n'y avait pas de photo. Donc, j'avais juste, moi, la possibilité d'avoir un vrai photographe. C'était ma sœur, en plus, qui est photographe, qui m'a fait des super photos de toute la soirée. Et j'ai dit, avec ces photos-là, je vais faire un petit livret que je vais vendre pour la recherche contre le cancer. Et je vais faire un petit livret photo que je vais vendre, comme ça.
D'accord.
Et puis, moi, j'ai regroupé ces photos-là. J'ai dit, putain, les photos sont pas mal. Mais ça me rappelle une soirée quand j'avais fait The Mix 600 à Paris, dans le siège du Parti communiste en forme de soucoupe volante. J'ai dit, j'avais des super photos. Je ne les ai jamais publiées. Peut-être que je vais mettre ça dans le livre. Et puis, tu vois, j'ai commencé à rajouter des photos et je suis retombé sur des photos de 2003-2004 qui étaient justement mes premières rencontres avec, tu disais, Bob Sinclair, quand on a commencé à faire de la musique cet avènement de la French Touch. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être le coup de documenter ça, surtout que j'avais les vidéos qui allaient avec. Et donc, je me suis dit, allez, tiens, je vais commencer à raconter ça. Et tu sais, ben, c'est un livre qui au départ devait faire 30 pages et qui maintenant fait 528 parce que j'avais beaucoup de choses à raconter au final. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une vie tellement incroyable de rencontres.
Mais c'est une vie de fou. Mais cette vie a été dingue. Ça a commencé, alors il y a eu toute la période conservatoire, les cours de batterie, tout ça. Et surtout, ça a commencé à la radio. Et là, on est dans les locaux d'Énergie, on est au 7e étage de la rue Boileau. Et toi, tu as connu Énergie Nantes à l'époque?
Alors moi, j'ai connu Énergie Nantes, j'ai connu l'avenue Diana qui était vos précédents locaux.
Exactement. Radio moi, Fantasy, que... RF1, Maximum. Voilà, t'as une vraie histoire d'amour avec la radio. Ça, c'est indéniable.
La radio, c'est vraiment une histoire d'amour pour moi. C'est vraiment un média que j'adore, de parler en direct aux gens, de partager de la musique. C'est pour moi un prolongement parfait du DJ. C'est-à-dire le DJ, tu vas partager ta musique en soirée, dans des clubs, dans des festivals, tu fais danser des gens. Ouais. La radio, tu fais découvrir des artistes, tu fais découvrir des titres avec des auditeurs, alors que tu ne vois pas physiquement, mais tu partages quand même. Il y a la même sensation de partage avec la radio, et c'est vrai que la radio a une part très importante dans le livre, puisque justement, je raconte les différentes radios, et j'explique comment les radios aussi ont évolué vis-à-vis des DJ, comment on a été de plus en plus mis en valeur, tu vois.
Ouais. Et ça ne te manque pas un petit peu, parce que là, maintenant que tu as arrêté The Mix et tout, tu n'as pas envie d'une petite résidence en radio, un truc
Pour être très franc avec toi, ça me manque un peu ce contact. Effectivement, ça fait un an, tu vois, et là, j'ai du mal. Mais bon, j'ai vraiment fait exprès d'arrêter au 999 après 20 ans, parce que je voulais vraiment faire une fête et je voulais contrôler la fin. Et je voulais que la fin soit un peu une parabole, que ça soit une très belle fête, tu vois, que les gens aient comme souvenir de se dire, voilà, The Mix de Joachim Garraud, c'était dingue. La dernière, je me souviens, c'était fou. Il y avait tellement de DJ qui sont venus mixer comme ça, à l'improviste.
Ouais,
c'est ce que je voulais, voilà.
Allez, les line-up de soirée avec Joachim Garraud, on sait qu'il faut être là parce qu'on sait que ça va être fou. Et en restant radio, est-ce que tu as un regard, qu'est-ce que tu penses du rôle de la radio? Est-ce que tu penses qu'il a évolué dans le bon sens aujourd'hui? Est-ce que tu vois, je ne sais pas, dans 5-10 ans, est-ce que tu la vois évoluer différemment?
C'est marrant que tu poses cette question-là parce que c'est une question qu'on m'a posée récemment parce qu'il y avait justement des gens qui se sont posé la question de savoir l'avenir de la radio puisque la radio a beaucoup changé, c'est un média qui a beaucoup changé. Avant, on écoutait beaucoup de musique à la radio. Aujourd'hui, on écoute quand même plus de la musique sur des propres playlists via des plateformes de streaming. Ouais. Je pense que la radio a un rôle éducatif assez important en ce qui concerne la découverte musicale. C'est ce que je reproche un peu aux plateformes de streaming qui t'enferment un peu tout le temps dans la même catégorie de musique.
T'es dans ta bulle, t'écoutes 40 titres et puis en fait tu sors jamais.
Voilà. Et voilà, et tu restes un peu dans ce même truc-là, alors que je trouve que la radio, justement, devrait avoir cette volonté d'ouvrir un peu plus les œillères des gens, puis proposer plus de styles musicaux différents, faire découvrir des nouveaux artistes. Et bon, non, je pense que la radio a aussi beaucoup d'intérêt sur le talk, sur le fait de pouvoir faire parler les gens, de pouvoir écouter les gens, d'être aussi beaucoup en local, parce que je trouve que la radio, alors là, toi tu es sur un média national, ouais. Mais je trouve que quand tu parles à des gens en local, et la radio a une très très forte puissance que n'a pas un Spotify ou des choses comme ça, bien évidemment, quoi.
C'est sûr, mais après, c'est vrai que les générations consomment différemment la musique. C'est quand je vois la durée des maxi, je repense à Bob Sinclair qui est venu vous voir avec un maxi de Love Generation de 5 minutes 30.
Et toi, 8 minutes.
Et tu dis, ah, tu t'es fait plaisir, les dons, Coco, 8 minutes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un disque de 8 minutes, c'est inimaginable, en fait. Ça a évolué.
Ouais, maintenant, les versions longues, c'est 3 minutes 30.
C'est ça. Intro, ouais, c'est super dur. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis, est-ce que la musique, toi qui as vraiment connu vraiment tout, là t'es vraiment.
Heures, oui.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant?
Non, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. C'était différent. C'était un petit peu moins formaté, en tout cas parce qu'aujourd'hui, on fait de la musique pour aller sur tel média, on fait de la musique pour plaire à telle personne, à tel type de personnes qui vont dans tel festival. Et c'est un tout petit peu trop segmenté, à mon avis. Ouais. Et moi, j'aime quand la musique s'adresse avec un peu plus de monde et est un peu plus généraliste. Alors, quand je dis généraliste, c'est le terme de pouvoir séduire différentes couches de la population, différentes personnes. Et je trouve que justement la musique, alors en plus maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la musique est de plus en plus formatée parce que si tu veux, tout se ressemble de plus en plus.
On est d'accord.
Je trouve qu'on a du mal à avoir des choses qui sortent un peu du lot, des choses que tu as envie d'écouter pendant 2-3 ans, pendant 10 ans. Est-ce que les choses qui sortent aujourd'hui sont des choses qu'on va réécouter dans 3 ans, dans 10 ans?
C'est ce que je me dis, tu vois, on parlait du morceau de... J'ai pris cet exemple-là, le morceau de Guetta, le dernier qui s'appelle Gone 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 avec Teddy Swims, qui est énorme. Et je me suis dit, s'il était sorti il y a 10 ans, ça aurait pu faire un titanium, mais aujourd'hui, il sort, j'ai l'impression que plus rien n'a d'impact, en fait.
La durée de vie, durée de vie est très courte.
Ouais, la durée de vie et surtout l'impact psychologique que peut nous provoquer un titanium de David Guetta. Tout le monde fera dans 20 ans far away, tu vois, mais il y a plus cet impact-là. Est-ce que parce qu'on consomme trop vite, est-ce que la valeur de la musique a évolué? Je ne sais pas.
Ah là là, mais c'est des discussions philosophiques là, dans lesquelles on se lance. Là. Mais j'adore.
Ouais, mais moi c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai une beaucoup plus courte carrière que la tienne, mais j'ai commencé en fait en même temps que David Guetta.
Non, toi, t'es un bon. Arrête, t'es modeste.
Non, mais en vrai, j'avais croisé David Guetta une fois. Et j'avais dit, j'ai commencé ma carrière avec Just a Little More Love. Et depuis ce morceau-là, voilà, en 2001, je suis arrivé à Energy en 2001. Et vous avez fait ce titre en 2001. Et je me suis dit, mais en fait, l'évolution a été tellement ouf que aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien n'a d'impact, en fait. C'est très bizarre. Dans l'électro, surtout.
Ouais, disons que les gens passent très très vite à des nouveautés. D'ailleurs, il suffit de voir, tu sais, le fait de scroller sur Instagram ou de scroller non-stop sur TikTok. Tu regardes un truc, tu regardes 3 secondes, 4 secondes,
ouais,
5
c'est
secondes.
Ça.
C'est-à-dire que c'est très difficile maintenant de capter l'attention des gens sur 3 minutes. Alors, t'imagines sur 7 minutes.
C'est impossible.
Là, c'est carrément
impossible. C'est impossible.
Mais bon, c'est là où justement la radio a un rôle à jouer. C'est que vous pouvez faire des formats qui sont beaucoup plus longs aussi, où vous invitez des gens qui viennent parler d'un super livre, par exemple.
I love my DJ live. Ah, mais t'as raison, t'es là pour ça. Là, on est là pour faire la promo, clairement. Mais alors, on parlait de l'IA. C'est super intéressant que tu en parles parce que toi, tu as toujours été au top de la nouveauté. Tu as toujours reçu les plugs et tout. J'ai vu que tu as été la deuxième personne en France à recevoir la licence Pro Tools.
Alors, exact, oui. Je suis allé la chercher aux États-Unis, en Californie.
C'est un truc de fou. Pour les non-initiés qui nous écoutent, Pro Tools, c'est le logiciel de base que toutes les radios utilisent et que aussi en son avant l'arrivée d'Ableton, de Logic et tout ça. Voilà, tous les ingé sons ont Pro Tools. Et toi, donc, tu as vécu l'arrivée de Pro Tools, Ableton, tous ces logiciels-là. Et maintenant, tu as l'IA. Est-ce que tu as intégré l'IA, toi, dans ton setup ou pas du tout?
Alors, oui, énormément. Ah. J'ai beaucoup intégré l'IA dans la façon de travailler, de continuer à faire de la musique, à produire, à aussi m'aider comme un… Moi, j'utilise l'IA comme un super assistant.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est l'assistant qui va me trouver le bon son parce que parmi mes 10 teraoctets de banque de sons, je me souviens d'un son de caisse claire que je voulais absolument, il va le chercher. Enfin bon, c'est des détails comme ça qui font gagner beaucoup de temps ou de la recommandation qui me dit, tiens, j'avais commencé ce titre-là, je ne l'ai pas fini, peut-être qu'on peut finir aujourd'hui. Enfin, tu vois, l'espèce d'assistant.
Ouais, de super assistant, quoi.
Moi, je trouve ça super. C'est vraiment un outil intéressant. Aujourd'hui, ça donne la possibilité à tout le monde de faire de la musique. Donc, c'est bien parce que ça démocratise la musique.
Un peu trop?
Non, c'est pas un peu trop. Je disais que j'aimerais que les personnes l'utilisent un petit peu d'une façon originale. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, si tu vas sur des sites comme Suno ou des choses comme ça, tout le monde fait le même type de musique.
Eh ouais.
Globalement, soit de l'urbain, soit… Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de variété de musique et c'est un petit peu dommage. Mais je pense que ça va se développer comme un outil. Alors malheureusement, les gens qui ont fait 20 ans d'études de conservatoire et que de la guitare, je pense que ce métier-là va être remis en cause. Il y a beaucoup de métiers qui vont être bouleversés dans la musique.
Mais après, il restera les lives.
Il va rester les lives jusqu'à ce qu'on se fasse remplacer par des robots dans 3 ans.
Tu veux dire que le prochain Electric Park, tu auras une scène robot?
Tu sais que j'y pense.
J'en étais sûr. Vas-y, dis-nous.
Non, pas une scène. Pas une scène, mais j'aimerais bien. Bon, et ça reste entre nous. Hein.
Vas-y. Non, mais de toute façon, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Ouais. On n'est pas dans un podcast énergie. T'inquiète pas, tout va bien.
Voilà, c'est pas diffusé. Bon, voilà. Non, j'aimerais bien être le premier festival à faire jouer un robot 30 minutes, tu vois, mais vraiment faire jouer un robot, mais bon, l'annoncer comme étant un truc expérimental, tu vois. Alors, je sais que je vais faire beaucoup décrier parce qu'on va dire, ouais, tu remplaces les humains, tu déshumanises ce métier. Et c'est vrai que d'un certain côté, je scie la branche d'arbre sur laquelle je suis parce que moi, je suis DJ, je suis humain, je ne suis pas un robot,
bien sûr.
Mais j'aimerais bien essayer quand même, j'aimerais bien pousser la technologie comme je l'ai fait. Et c'est marrant parce que dans le livre, tu verras, j'explique comment j'ai eu la chance de travailler sur une table de mixage qui a révolutionné aussi l'usage des filtres chez les DJ. Tu vas lire ça, je pense que ça va te plaire.
Ah ouais, c'est super intéressant. Alors justement, revenons un petit peu à ce I Love My DJ Life. Alors le livre est sorti là, ça y est. Montre-moi ça, montre-moi ce gros bébé là. 4,8 kg. Il est magnifique. Non, franchement, allez-y. N'hésitez pas. Pour les fans de musique électro qui nous écoutent, c'est vraiment une bible à avoir. Ça me fait un peu penser à un autre bouquin. Bah, celui de Bob Sinclair qui est sorti il y a un an. Il était venu nous en parler. Et toi, c'est un peu. Alors, c'est vrai que c'est centré sur toi, mais en fait, tu connais tellement de gens. En fait, il y a tellement de monde qui ont croisé ta route qu'à l'intérieur, on voit tout le monde, en fait.
les 70 personnes que j'interviewais, de Bob Sinclair à Benny Benassi, à Laurent Garnier, à Voracles, tu vois, des gens de la nouvelle génération, parce que j'ai eu la chance, quand j'ai créé le forum, un petit forum HTML en 2005, de donner un peu la possibilité à des gens de se regrouper. Et il y a beaucoup de gens qui ont éclos à partir de ce forum et qui sont dans ce livre. Et c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, de voir que des gens comme Lost Frequencies disent qu'ils ont commencé sur mon forum, ou de voir des gens comme Joris Delacroix, ou enfin, tu vois, il y a énormément de gens qui m'ont témoigné en disant merci au forum de m'avoir possibilité de rencontrer du monde. Ouais. Et de à faire de la musique, tu vois.
Il y avait le tien, il y avait la Mercerie aussi à l'époque, celui de Mercer, où il y avait tous les tous les DJ qui se croisaient, qui échangeaient leurs plugs à l'époque, leurs plugs un peu pirates.
Ah ouais, je me souviens tout à fait de ça. Et je te cherche ta page avec Énergie.
Ah, mais c'est au début, hein, t'es en tenue. Alors, toi, en plus, je suis jaloux parce que t'avais carrément le t-shirt Énergie. Et nous, ça, on l'a plus.
Tu scanneras le QR code qui est là, alors tiens, je commence.
Vas-y.
Il est trop lourd, c'est bien.
Te casse pas l'épaule. Hein. Ok. Oh là là, quel beau gosse!
Oui, oui. Et donc là, il y a un QR code en haut, là. Tu scanneras ce QR code, ouais, et ça va te donner l'histoire de la chemise. Elle vient d'où, cette chemise?
Ah, très bien, très bien. Parce que moi, je vais envoyer ça au boss. Je veux la même chemise, hein, pour les interviews maintenant. Hein.
Mais bon, tu veux que je te raconte?
Vas-y, je t'en prie. T'es là pour ça.
Alors, si tu scannes le QR code, je raconte l'histoire de cette chemise. Cette chemise, c'est moi qui l'ai faite moi-même. J'ai découpé un autocollant énergique. J'ai collé sur la poche pour faire la photo, t'imagines?
Pourquoi je suis pas étonné? C'est-à-dire qu'Énergie n'avait pas envie de payer pour des chemises?
Énergie démarrait à l'époque.
Ah oui, bah oui. Quelle année ça, 86?
C'est 1987, ouais, 87. Ouais. Donc voilà. Énergie avait encore comme slogan la radio stéréotonique. Enfin, c'était wow, une ancienne époque. Ça n'a rien à voir avec la radio dans laquelle tu travailles aujourd'hui.
Ça devait être une époque de dingue parce que, en fait, vous aviez un impact. Même nous, enfin, on voit aujourd'hui l'impact qu'Énergie peut avoir au niveau musical. Mais à l'époque où il y avait à peine la télé et pas de. C'est pas qu'il n'y avait pas de réseau, c'est qu'il n'y avait pas Internet.
Il y avait 10 radios. Il y avait 10 radios.
Et il n'y avait pas Internet. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu racontes, t'es allé acheter les maxi, les machins, et ça avait un impact de fou tout de suite, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, parce qu'on était vraiment écoutés comme étant des référents, comme des grands frères, quoi. Moi, quand j'étais à l'antenne Énergie, je m'adressais aux auditeurs comme s'ils étaient mes petits frères en disant tiens, regarde, j'ai découvert ça, tiens, il faudrait que tu écoutes ça, tiens, c'est super, tu vois. L'essai de recommandations, quoi, tu vois. Mm. Et c'est vrai qu'on était beaucoup écoutés. Aujourd'hui, effectivement, avec le nombre de podcasts qui existent, les streamings, les plateformes, les youtubeurs, enfin, si tu veux, il y a tellement de.
Il y a trop d'offres. Trop
d'offres. Que c'est difficile de sortir, mais je pense que Énergie, vous en sortez bien parce que vous êtes leader sur la France et sur pas mal de pays en Europe. Ouais. Et puis, vous avez encore une belle couleur musicale. Et puis, toi, en plus, tu drives une émission qui est vraiment spécifique, qui est en plus une émission dont je fais référence dans le livre, qui est la suite d'Extravadence et d'Energy Club et tout ça.
C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à mon niveau, j'essaie de faire pareil, de faire découvrir des artistes, de lancer des tendances. Et c'est vrai que ça fait 22 ans maintenant qu'il y a le samedi soir. Et quand on fait le tour de toutes les tendances qu'on a traversées, que ce soit Benassi en 2003 jusqu'à là récemment avec tout ce qu'on a, qu'on a vu, c'est costaud.
Bah oui, bah jusqu'à Fred Again aujourd'hui.
Hein, ouais, voilà.
C'est un peu le parcours. C'est pour ça que j'avais besoin de 528 pages. C'est parce que comme toi à la radio, moi j'avais besoin aussi de temps. Parce que ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que le livre, tu as le temps de raconter précisément une histoire. Parce que comme tu le dis, aujourd'hui l'offre, elle est tellement incroyable que tu as 15 secondes pour t'exprimer dans un reel. Tu vois.
Max.
Et donc aujourd'hui, avoir une double page où tu peux écrire 4000 signes, enfin tu peux faire deux pages précises sur une anecdote qui a changé la vie du DJ, je trouvais ça bien d'être très précis. Et en plus avec les QR codes, il y a ce côté interactif, le côté livre hybride où tu vas avoir une vidéo qui va en plus compléter la lecture de ta page. C'était vraiment un bon combo, une bonne combinaison, le livre plus les QR codes pour raconter des histoires et prendre le temps aussi aux gens de lire à la vitesse qu'ils veulent, tu vois.
Ouais. Ça, c'est pas mal. Et puis c'est surtout que ça reste dans le temps. C'est
un témoignage.
Ah
je suis
oui.
Content.
Pour
te dire la vérité, là, à l'heure à laquelle je te parle, on est sold out, je crois, il en reste 3 ou 4 à vendre, donc ça va être fini là, aujourd'hui.
Il faut que je me dépêche.
On va réimprimer une nouvelle série parce qu'on a eu beaucoup de demandes Et puis, suite au passage sur énergie…
ça va exploser, c'est sûr. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas gagner un petit exemplaire pour les auditeurs de WhatsApp DJ?
Ah ben c'est ça, c'est une bonne idée. On n'a qu'à faire ça.
On va faire ça. Alors, dans ce livre, pour le gagnant ou la gagnante, vous allez pouvoir retrouver, comme tu l'as dit, plein d'anecdotes. Et il y en a une qui, comme je te disais tout à l'heure, m'a beaucoup parlé, c'est ta rencontre. Alors, il y a la rencontre avec David Guetta et surtout l'histoire de Just a Little More Love. Et alors, on va lier ce morceau avec les To Be Free, si j'ai bien compris.
Oui, exact.
Donc, je vous mets le cadre. On a David Guetta, on a Joachim Garraud, on a Chris Willis, le chanteur, et on a les To Be Free. Voilà. Et je te laisse là-dessus. Tu gères.
Ouais, merci. Alors, effectivement, comment je peux vous raconter ça? Alors, oui, les To Be Free avaient fait un gros succès, un titre qui s'appelait Partir un jour.
Ouais, c'était le boys band de l'époque. Voilà, c'était un gros boys band.
C'était le boys band au numéro 1 de l'époque, et on est en 2000 ou 2001. Oui. Et effectivement, Adèle, qui est un des trois To Be Free, était un pote de David Guetta. Et un jour, il appelle David et on fait de la musique avec David tous les deux. On est en train de faire justement l'instrumental de Just a Little More Love électronique. Et Adèle nous dit la chose suivante. Il dit, tiens, tu sais quoi? Il y a notre coach vocal qui s'appelle Chris Willis, qui est à Paris. Et c'est un chanteur de gospel. Et ce serait bien si vous pouviez le rencontrer avec Joachim pour peut-être faire un essai au studio. Alors nous, tout de suite, on dit, bah oui, bien sûr, il n'a qu'à passer demain. Et donc, ça, c'était le lundi. Le lundi, on faisait de la musique avec David. Le mardi, Chris Willis vient au studio et Chris Willis nous déchire le morceau.
Là, tu racontes l'histoire, c'est avec ses fous. C'est que Chris Willis, c'est le one take. C'est quoi l'adjectif que David avait trouvé?
One take wonder. Voilà. One take wonder, c'est une prise.
Une prise. C'est voilà. Ça, une prise. Le gars te fait un titre en une prise.
Ah oui, c'était la machine. Je l'appelais la machine après. Mais c'est vrai que donc on a rencontré Chris Willis le mardi et j'ai enregistré ce titre-là en 40 minutes parce que c'était très très vite. Il a fait plein d'harmonies. On a même enregistré des couplets que j'ai jamais utilisés.
C'est ce que tu dis. Ce serait intéressant de ressortir une version avec les couplets parce que du coup, on les a jamais entendus.
Non, c'est vrai. Ouais. Ben, ils étaient moins bien, à vrai dire. Tu sais, il y a quelques fois, il faut savoir choisir parce que j'étais moins satisfait du rendu des couplets par rapport au refrain. Ouais. Et donc, du coup, on a gardé que les refrains. Et donc, j'explique un peu pourquoi j'ai gardé que les refrains et comment j'ai gardé que les refrains. Et donc, ce titre-là est devenu le premier titre de David Guetta qui a fonctionné, Just a Little More Love, et qui s'est fait en très peu de temps puisque le lundi, on a fait l'instrumental avec David. Le mardi, on a enregistré Chris Willis. Le mardi soir, David le jouait au bain-douche parce qu'il était DJ au bain-douche et il pilotait les bain-douches. Et au bain-douche, il y avait effectivement le patron de Virgin, une maison de disques, qui nous a dit « Oh, c'est super ce titre !» Et on a signé vendredi. Donc, ce qui fait qu'en 5 jours, le titre était composé, enregistré, mixé et signé. Donc, c'était une histoire incroyable, vraiment une histoire magique, tu vois. Donc, je voulais vraiment raconter ça dans le livre. Et en plus, comme j'avais la chance d'avoir les photos authentique d'origine, parce que j'aimerais mettre un petit point, un truc important. La première page du livre, ça explique que dans ce livre-là de 528 pages, il n'y a pas une seule photo qui a été fabriquée par l'IA.
Ouais.
Parce que je voulais que le livre soit 100% authentique. Alors, même si des photos sont de mauvaise qualité, sont un peu petites, parce qu'elles sont tirées de VHS d'une mauvaise qualité, je voulais quand même que tout soit authentique. Et alors, bien évidemment, on a utilisé l'intelligence artificielle pour augmenter un peu la qualité de certaines choses. Mais en aucun cas, on a créé des photos. Et donc, c'est pour ça que, comme j'avais les photos de ce jour-là où on avait enregistré avec Chris Willis, je lui ai dit, mais il faut absolument que je mette ces photos-là parce que pour nous, c'était le début de ce qu'on appelle l'EDM, l'électronique.
Ah non, mais c'était le début de tout, en fait. C'est que ce morceau-là, moi, j'ai encore le vinyle à la maison. Alors, je ne te cache pas qu'il est bien rincé parce que je l'ai beaucoup passé. Mais c'est Just a Little More Love. Et après, il y a eu Love Don't Let Me Go. Il y en a eu plein d'autres. C'est le titre qui a lancé David Guetta. Et d'ailleurs, je l'ai découvert dans le livre qu'il y a un sample, en fait, à l'intérieur. Je ne savais pas.
Oui, il y a un sample de Hashim, avec un truc électro, exactement.
Que d'ailleurs, David a ramené.
Exactement. Ben on a commencé ce titre-là avec ce vinyle que j'ai. Et d'ailleurs, j'ai mis le QR code sur le livre parce que je trouvais ça intéressant que les gens voient d'où vient l'inspiration.
Ouais, c'est
souvent les gens disent comment vous faites de la musique. Ben, ça peut être à partir d'un sample, d'une idée, d'une base, d'une rencontre, d'un voyage. Voilà.
Ouais, j'ai vu. Ah, mais du coup, je suis allé sur Spotify, j'ai fait je connaissais pas ça. Du coup, hop, je l'ai mis de côté. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a celle avec Bob Sinclair aussi, quand il vous fait écouter pour la première fois le générique de la Star Academy, le Love Generation. Ça aussi, si tu peux en parler un petit peu, c'est tellement drôle.
Ah, oui, bah, effectivement. Donc, on est dans un peu. Il faut imaginer que le studio que j'avais rue de Rivoli faisait 7 mètres carrés.
Ouais,
donc,
ça, c'est fou.
C'est une toute petite chambre. Tu vois, tu mets même pas un lit dedans. Et donc, on était David et moi, tous les deux. Et puis, Bob Sinclair vient nous voir.
Parce que tout le monde venait chez toi pour enregistrer, parce que tu avais les plugs et tout machin.
Il venait souvent, Bob Sinclair, parce que comme j'avais le Pro Tools, comme tu disais, j'étais avant-gardiste avec le Pro Tools, mais j'avais des plugins. Et puis aussi, comme j'ai fait une formation de conservatoire de musique, j'ai une formation classique de musique qui me permettait aussi d'aider rapidement dans la composition, dans le choix des accords, dans le choix
pour
des
les
notes.
Mélodies, ouais.
Ouais, pour le sol, un côté un peu solfège qui permet d'aller assez vite dans la production. Donc, c'est pour ça que les copains venaient sûrement me voir, parce que, un, j'étais bien équipé, j'avais un studio rue de Rivoli, et aussi, j'avais cette connaissance musicale, et puis j'étais DJ, donc j'étais un peu les deux casquettes. Donc, Bob Sinclair vient me voir, et il arrive, et il dit, « Hey les gars, il y avait David et moi, on était dans le studio, et il dit, hey, les gars, je viens de finir un titre, je vous fais écouter, c'est d'enfer, et il nous passe Love Generation. » Je me rappelle, je prends le CD, bon, un CD-R, donc un CD qui venait juste de graver, qui sortait de son studio. Et là, on entend la guitare fait brésilien. Et puis après, quelqu'un qui siffle, pam 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 pam. Et puis quelqu'un qui siffle. Et on se regarde avec David, on dit mais il a pété les plombs.
Et c'est quand le refrain ? C'est quand le refrain ?
Et on se dit mais ça commence quand ton truc ? Et Bob Sinclair, au bout de 2 minutes, il dit non mais les gars, ça commençait là. Je dis non mais
ça c'est le refrain ça.
Tu vas faire danser les gens. Mais dit non. Et c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de le charrier pendant. On a écouté pendant 5 minutes, je pense. Le titre faisait 8 minutes. Et c'est vrai que ma première réflexion, c'est quand j'ai mis le CD, que j'ai vu que ça faisait 8 minutes. J'ai dit, mais tu t'es fait plaisir, 8 minutes.
C'est un album, quand, 8 minutes, c'est pas un titre, c'est un album.
Et donc, quand on lui a cassé le moral, c'est-à-dire que David et moi, on était arrêtés pas à lui dire, mais attends, quand est-ce que ça démarre ton truc? Est-ce que tu vas vraiment faire danser les gens avec? Tu fais des remixes? On n'a pas arrêté
de le dire. Ah, le pauvre. Mais il y a cru.
Il a repris son CD et il est parti et il était démoralisé.
Oh, merde.
C'est marrant parce qu'il a lu le livre, Bob Sinclair, il a lu le passage, il m'a dit « Mais c'est vrai que vous m'aviez fracassé, les gars. »
Bravo les copains, super les copains.
Pour te dire comment on peut se tromper, avec David Guetta, on est dans le studio, quand Bob Sinclair est parti, on dit « Ça ne marchera jamais, c'est ton naze. » Et le truc, il en a vendu des millions. Et
le générique de la Starac et tout, ouais,
c'était… Ouais. Non, mais à quelques fois, on peut vraiment se tromper. Et là, on s'était trompé dans les grandes largeurs avec David. Et c'était vraiment une anecdote qu'on a partagée tous les trois pendant des années. Parce qu'à chaque fois qu'on se revoyait, on disait « Tu te souviens le jour où je t'ai ramené Love Generation ?» Je dis « Ok, d'accord, ça suffit, c'est bon, j'ai fait une erreur, désolé. »
Non, mais c'est bien, voilà. Faut avouer, à moitié pardonner. Et puis, je pense que depuis… Bob, il s'est bien rattrapé. Mais c'est vrai que c'est quand même une vie quand même de dingue. Alors, on parle de la production. Il y a aussi Electric Park. Alors, tu as dit une phrase tout à l'heure. Tu as dit, ça ne marchera jamais. Et ça me fait penser à un copain que tu connais très bien qui s'appelle Damien RK, à qui on a dit souvent, ta musique, ça ne marchera jamais. Voilà. Et aujourd'hui, il tourne partout. C'est l'un des fers de lance de Electric Park. Il a sa propre scène et tout. C'est une dinguerie. Donc, est-ce que pour toi, c'est l'une des plus grosses fiertés, ce festival ?
Oui, moi, je suis une fierté de pouvoir continuer à produire ça depuis 2010. Donc, ça fait la 17e édition cette année. C'est tout le temps, la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre, et c'est tout le temps au même endroit sur l'île des Impressionnistes à Chatou.
Ouais.
Ça s'appelait Inox Park au départ, ça a changé de nom. J'explique dans le livre pourquoi il y a changement de nom et tout ça. Ça s'appelle Electric Park aujourd'hui. Et oui, je suis assez fier parce que ça donne la possibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, de partager des nouveaux artistes. Je suis très fier de dire que des artistes comme Skrillex, la première fois qu'ils sont venus en France, c'est avec mon festival, ou Avicii, la première date qu'il a faite sur un festival français, c'est chez moi, dans mon festival. Ou des gens que j'ai fait découvrir au public français.
Ouais.
Et je suis très content de faire ça. Et mon rapport avec Damien RK est aussi très fort parce que j'ai fait confiance à Damien en disant « Damien, la musique que tu produis, que tu fais, que de la hard music, et happy music, happy hardcore, toutes ces choses-là que je ne connais pas très bien, toi, tu es très spécialiste là-dedans, je te fais confiance, je te confie une scène. » Et il a développé une scène qui fonctionne énormément, qui est vraiment un repère maintenant d'Electric Park, qui a sa scène rouge, qui est la scène happy hardcore. Mais bon, donc du coup, c'est vrai que cette année, on refait ça, c'est le 5 et 6 septembre. Ce que je conseille aux gens, c'est de venez déguiser, venez avec un état d'esprit festif. Vous allez voir, il y a 5 scènes, vous allez vous balader avec plein de styles de musique dans un parc qui est magnifique. Et puis, vous allez faire la fête avec des copains et vous allez découvrir des artistes. Voilà, je suis très fier de ça, ouais, effectivement.
Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu The Mix, il y a eu la radio, il y a eu David Guetta, Electric Park. Il y a eu tellement de projets. Est-ce que Joachim Garraud, en 2026, il a quand même un regret ou pas du tout ?
Est-ce que j'ai un regret?
Est-ce qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé comme tu aurais voulu?
Ah oui, alors j'ai pas mal de choses qui ne se sont pas passées comme je voulais. D'ailleurs, j'ai consacré une double page qui s'appelle Failed. C'est tous les projets qui ont merdé, tous les projets qui ne sont pas allés au bout.
Il n'y a qu'une page, ça va.
Une double page avec quand même 6 projets, dont des trucs assez costauds où tu travailles pendant vachement beaucoup de temps, tu mets beaucoup d'argent, tu mets beaucoup de ton temps et puis ben, ça ne va pas au bout. Et j'explique les raisons de l'échec.
D'accord.
Parce que je trouvais ça assez intéressant de partager aussi les échecs. Ça fait partie de ton expérience. Ouais. J'ai pas de regrets puisque les échecs, je les assume. Et je continue à lancer des projets. Mais il y a des fois des projets qui ne vont pas au bout ou des projets qui se plantent. Hein, parce que dans notre métier, alors dans notre métier de producteur de musique ou de producteur de festival ou producteur d'événements, tu commences à travailler sur une trentaine de projets. Tu en as 3 qui arrivent au bout. Donc, tu en as 27 qui ne vont pas au bout. Ouais. Et sur les 3, il y a 1 qui marche. Tu vois, donc, il y a un espèce de ratio quelquefois qu'il faut accepter dans la musique. Et d'ailleurs, c'est marrant, je l'explique dans le livre aussi, qu'un jour… j'étais en studio à Los Angeles et avec will.i.am, il y avait Justin Bieber. Vous lirez l'histoire, elle est juste folle.
J'adore.
Parce que c'est complètement improvisé. Et je vois arriver à la fin de la séance Paris Hilton. Et Paris Hilton me demande des tracks. Elle me dit, toi, tu n'as pas de la musique, des instrus? Je donne des instrus et je n'ai jamais eu aucune nouvelle. Et j'explique pourquoi justement ça fait partie de ces trucs où on n'a pas de nouvelles. Il y a des gens
ouais, mais...
qui leur donnent des trucs. C'est extraordinaire, c'est génial, je t'appelle demain et zéro coup
de fil. Ouais, après, il y a eu zéro carrière non plus, donc pas de regret hein, pour le coup.
Voilà,
en tout cas, c'est bien parce que tu vois, tu assumes tes échecs et je pense que c'est aussi un problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas le droit d'échouer. Alors qu'aux États-Unis, où tu vis depuis 13 ans, je pense que, et c'est même sûr, l'échec fait partie du parcours en fait. Et on revendique on assume ses échecs.
Tu le mets dans ton CV quoi.
Ouais, c'est
alors,
ça.
Tu le mets pas en gros.
Mais planter deux boîtes aux États-Unis, c'est normal. Ici, t'es wanted.
Ouais, alors c'est vrai que je pense que ça va un peu mieux quand même. La France, c'est un petit peu mieux décomplexé vis-à-vis des échecs. Mais tu as raison, c'est pas la même culture aux États-Unis. C'est vrai que les gens tentent plus de choses. Alors, comme ils tentent plus de choses, ben, ils foirent plus de choses. Mais au final, ils réussissent plus de choses.
C'est ça. Alors, dans ce I Love My DJ Life, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'histoires, il y a ton histoire, mais il y a un truc qui manque, c'est les projets de Joachim Garraud. Qu'est-ce qui va arriver d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'il y a des titres, de la prod, de la ghost production pour d'autres artistes?
Alors, j'aime bien le terme ghost prod. Non, alors, pour te dire, en 2026, j'ai au moins 3 gros projets. Premier projet s'appelle Avoriaz. C'est un groupe que je viens de monter avec une productrice artiste qui s'appelle Dolorantis. On a fait le groupe Avoriaz. On a un premier single qui est sorti qui s'appelle Glass of Champagne. Allez voir ça sur les plateformes de streaming.
Okay.
On va sortir un single toutes les 5 semaines pendant 1 an et puis un album à la fin de l'année. J'ai mon festival Electric Park sur lequel je travaille 5, 6, 7 ans. Et j'ai un album avec qui je travaille, enfin un artiste majeur avec qui je travaille sur un bel album qui sortira en janvier l'année prochaine. Mais je ne peux pas trop en parler pour l'instant. On va en parler dans les prochaines semaines, je pense. Enfin, je vais laisser lui, il va en parler en premier, bien évidemment, parce que c'est son album. Je l'aide à produire, c'est tout.
Ouais.
Et après, je vais dans 3 semaines, tiens, je pars dans le désert avec 2 artistes québécois et on fait de la drum and bass en français avec mon studio d'enregistrement et les Good Vibes.
Ah, c'est la soucoupe mobile là qui va solaire, c'est le studio solaire?
Oui, c'est ça. Ben, tu verras, les QR codes, ça te montre. D'accord. Pendant 9 mois. J'ai profité du Covid pour justement le fait qu'il n'y avait plus de dates, plus de concerts. Ben, j'ai acheté un vieux camping-car de 2009
ouais.
Qui fait quand même 12 feet, enfin qui fait. Non, qui fait 36 feet, donc il fait 12 mètres 50. Ça fait 9 tonnes. Et puis du coup, je l'ai converti en studio d'enregistrement solaire pour pouvoir aller faire de la musique un peu n'importe où, pour aller sur plein de planètes, pour aller voir les Space Invaders comme ça, tu vois, par exemple.
Oh là 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 là, mais c'est énorme. Ça, c'est un vrai ouais. Rêve, quoi. C'est dingue.
Mais là, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de QR codes, parce qu'il y a un film de 40 minutes qui explique comment on a fait tout ce bus-là, qu'on l'a converti en solaire. Et puis, il y a un autre film qui a été d'ailleurs primé ici aux États-Unis, meilleur film documentaire musical, qui explique comment on va faire de la musique grâce au soleil dans des lieux incroyables. Donc, achetez ce livre.
Ah, voilà.
Il y a plein de trucs à lire.
Non, mais c'est énorme. Franchement, allez le voir. Si vous aimez un peu la musique électronique, allez-y. I Love My DJ Life. C'est dispo sur joachimgarraud.com, c'est ça?
Exactement. joachimgarraud.com. Et puis, on a fait pour expliquer aussi, Tous les profits sont reversés pour la recherche contre le cancer. Donc, vous ferez en plus une bonne opération, une bonne cause. Vous servirez la cause médicale et c'est toujours important de savoir pourquoi vous donnez votre argent, pour avoir un beau livre, mais en plus, vous aiderez la recherche.
Un artiste au grand cœur, et ça, c'est tout ce qu'on aime chez Joachim Garraud. Merci beaucoup, Joachim Garraud, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Morgane, merci Énergie.
À bientôt, salut.
À bientôt, salut.
Énergie. What's up, DJ?